journal des auditeurs avec Stéphanie Hartmann sur Africa numéro 1. Africa.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission, bienvenue dans le journal des auditeurs, l'émission hein, où vous avez la parole. Pour participer, appelez-nous maintenant au 01 55 07 58 00 depuis la France et le 00 33 1 55 07 58 00 depuis partout ailleurs dans le monde. Aujourd'hui, c'est vendredi, synonyme de libre antenne dans le journal des auditeurs. C'est vous hein, qui choisissez les sujets sur lesquels vous souhaitez vous exprimer. C'est vous qui faites le sommaire. Quelques suggestions, on reviendra peut-être hein, effectivement sur cette volonté de l'Italie d'expulser les migrants, vous venez de l'entendre hein, dans le journal de BBC Afrique. Vous pourrez également réagir au procès en appel de Jean-Pierre Bemba, hein, qui doit être, dont le verdict doit être rendu aujourd'hui à la Cour pénale internationale. Nous attendons vos commentaires sur le G7 qui se tient actuellement au Québec, hein, non sans quelques tensions. Ou encore hein, vos réactions également à cette annonce du président Pierre Kourouziza qui, après avoir modifié la Constitution, annonce qu'il ne se représentera pas en 2020. Je rappelle le numéro pour participer, indicatif compris, 00 33 1 55 07 58 00. Mais avant cela, on a sauvé quelques messages du répondeur. Les voici.
Le JDA, c'est sur Africa numéro 1.
Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je suis monsieur Dja. On est vendredi et je voudrais profiter de la libre antenne que notre chère radio nous accorde. Et j'en remercie toute l'équipe qui va avec pour réagir sur l'intervention, je crois que c'est la semaine dernière, évidemment, du Ouattara, du président ivoirien Alassane Ouattara. Et voilà. Donc, en fait... Je voulais lui dire, en fait, cette réaction de sa part, pour moi, est une manière pour lui de faire un sondage pour savoir ce qu'il vaut maintenant. Et voilà ce que je voulais dire. Merci.
Oui, bonjour à mes auditeurs. Bonjour Stéphane Hartmann. Vraiment, nous sommes tellement heureux de vous entendre chaque matin, comme l'après-midi, comme le soir. Vous êtes porteur de messages du monde. Vous êtes nos Gabriel. C'est vous qui nous portez toutes les nouvelles que nous avons besoin dans le monde. Que Dieu veille sur vous, que vous puissiez avoir longue vie et bonne santé après l'argent et bonne terminaison de vos missions. Nous sommes heureux. Je tiens à vous remercier avant de laisser mon message. J'ai envie de laisser un message qui doit rappeler à nos concitoyens en Côte d'Ivoire, pour la raison à laquelle je vais intervenir, puisque nous, comme vous, vous savez, toute chose, il y a un père, il y a une mère, il y a un fondateur de tous les pays. Au jour d'aujourd'hui, nous parlons du Ghana. Ghana, il est démocrate. Grâce à qui? Grâce à John Rollis. Il a essayé de faire le possible dans l'impossibilité. Et Dieu merci, il a réussi. Ce que je demande à mes frères ivoiriens, soyons pas trop pressés.
Cher ami du JDA, Madame Hartmann, bonjour. Je me permets d'intervenir par rapport à la déclaration de Pierre Kourouziza de ne pas se présenter en 2020. Je ne fais pas du tout confiance à ces gens. Ces gens, ils ont trop de volte-face, ils racontent trop n'importe quoi. Tout ça là, c'est pour essayer d'apaiser et tout le peuple burundais. Il faut rester très vigilant. Ce Kourouziza, il est très dangereux. Il ne faut même pas lui laisser le temps. Il faut qu'il se casse et tout. Il y en a marre avec ce genre de déclarations. Et des choses à tout le monde. Bon week-end. Dieu donne Kassongo. Que Dieu bénisse tout le monde. À très bientôt. Ciao.
Prenez la parole dans le JDA sur Africa numéro 1.
Africa.
Merci à tous pour vos messages aujourd'hui dans le journal des auditeurs. C'est donc la libre antenne. C'est vous qui choisissez les sujets sur lesquels vous souhaitez intervenir. Je regarde du côté du standard, on va revenir sur les déclarations de M. Ouattara, on parlera dans quelques instants de l'Italie, hein, le problème des migrants, et Marcus nous parlera de la Martinique, et des violences faites aux femmes en Martinique. Mais on commence tout de suite avec Olivier. Olivier, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour Olivier, c'est à vous. Je vous donne le top comme annoncé hors antenne. Non, je vous taquine, vous vouliez revenir hein, sur le sort des migrants en Italie. Et puis vous avez un point de vue un peu tranché, dites-nous.
Oui, donc voilà, donc moi, je viens là pour dire à mes frères qui prennent la mer et qui viennent, c'est vraiment un drame qui se joue, mais je demande le courage qu'on prend pour traverser la mer et de venir ici, de prendre ce courage-là pour chasser tous ces présidents dictateurs qui sont au pouvoir et qui créent la misère. Et qui les envoie ici.
Ce que vous disiez au standard, plutôt, mon cher Olivier, vous allez me dire si je trahis votre pensée, c'était finalement l'Italie a bien raison d'expulser les migrants, c'est aux pays africains de prendre soin de leur population, de leurs ressortissants.
Ah oui, bien sûr qu'ils n'ont pas le choix, ils ne peuvent pas accueillir tout le monde. Donc l'Union européenne leur rejette tout le bébé et ils n'ont pas le choix. Aujourd'hui, ça a été un vote démocratique qui a mis ces gens-là au pouvoir. Donc, les Italiens en eux-mêmes ont besoin de quelque chose. Ils ont besoin de voir ça. Donc, pour ne pas qu'il y ait des drames encore, il faut que les Africains se prennent en main. Il faut que ces présidents-là, qui changent de voix, qui veulent vieillir et mourir au pouvoir, quittent là. C'est le vrai problème. C'est le vrai problème. Le problème, ce n'est pas les Italiens. Les Italiens, oui, ils vont les voir parce que, voilà, ils vont ramener des pauvres gens. Les gens meurent à chaque fois sur les plages italiennes. Mais c'est pas eux. Le problème, c'est nos chefs d'État. Le problème, c'est le système qu'il faut combattre.
C'est très clair, Olivier. Merci, Olivier, d'avoir ouvert ce débat sur le sort des migrants en Italie. Olivier s'en prenait au chef d'État. Merci beaucoup. On continue d'en parler avec Monsieur Diaby. Monsieur Diaby, bonjour.
Bonjour, Stéphanie.
Bonjour, Monsieur Diaby.
Moi, je suis pas d'accord avec Olivier, mais je suis d'accord encore un point, mais le ministre a dit qu'il va envoyer les migrants. Il va envoyer ça dans quel pays? C'est ça qu'on est en train de chercher.
C'est ce que disait l'invité tout à l'heure de BBC Afrique en disant finalement, ce sont des gens qui n'ont pas de papier. On ne sait pas où les renvoyer.
Exact, il a bien dit, mais on les envoie dans quel pays? Mais ils vont négocier encore des chefs d'État qui sont corrompus.
Il faut préciser, mon cher Diaby, puisque vous énoncez cette question sur on les renvoie dans quel pays, que pour envoyer un migrant dans, entre guillemets, son pays d'origine, il faut que le pays d'origine accepte.
Oui, d'accord, voilà. Stéphanie, mais ces gens-là, ils viennent, ils n'ont pas de passeport, ils n'ont pas de carte d'identité. Vous envoyez dans quel pays? Qui va accepter ça? Moi, je pense qu'il y a des pays qui sont corrompus. Tellement que les chefs d'État, ils aiment tellement de l'argent. Mais vous voyez ce qui se passe au Mali. En 2012, ce qui s'est passé. ATT, quand il a accueilli des djihadistes, il ne savait pas. Mais aujourd'hui, ceux qui sont en Libye, il y a un peu tout. Il y a tous les pays. Il y a tous les pays du monde. Mais vous allez envoyer ça à quel pays qui vont? Ils vont essayer de corrompre un chef d'État. De créer un centre de rotation en disant qu'on va vous envoyer tous les migrés chez vous, on va le voir, ceux qui sont droits, ceux qui ne sont pas droits. Mais c'est un piège pour les Africains. Mais si un chef d'État africain qui continue à accueillir ces migrants-là chez lui, ben bonjour ces pays-là. Moi, je pense quand même qu'avant qu'il prenne des décisions, nous, le président, il va partir, parce que bientôt, il va partir. J'espère qu'il va partir, parce qu'il y a des présidents qui sont tellement corrompus en Afrique, il accepte tout ce qu'on envoie, il accepte. Voilà le problème. Ça, c'est l'alerte à donner les Africains.
Vous dites que c'est au président de refuser finalement de récupérer les migrants expulsés. On a bien compris. Merci beaucoup, monsieur Diaby. C'est la libre antenne. On va essayer de vous prendre tout. Je rappelle le numéro pour intervenir, 01 55 07 58 05. Marcus, bonjour.
Oui, bonjour Madame Atman, bonjour les auditeurs.
Bonjour Marcus.
Bon, il n'y a pas d'invité. Mais en fait, c'était juste pour porter un petit rectificatif et sur l'annonciation de mon intervention. Ce n'est pas la violence faite aux femmes. Mais en fin de compte.
Excusez-moi, c'est ce qu'il y a écrit sur ma fiche, mon cher Marcus.
Oui, c'est une erreur, mais ce n'est pas grave. Mais en fin de compte, je réagis par rapport à l'analyse psychologique de l'invité de BBC qui parlait des conséquences de ce qui s'est passé en Libye et de la violence faite aux femmes. C'est ça que je voulais dire. Mais en fin de compte, et une question que je pose, les enfants qui naîtront de cette violence de viol des femmes, dans quelle catégorie de personnes on pourra poser ces enfants? Et je voudrais signaler quelque chose, c'est qu'en Martinique, il y a eu un débat entre un descendant des Béquets, qui est Guillaume de Rinal, et une juriste, Madame Djamel. Et dans ce débat, la science a pu démontrer que l'histoire de l'esclavage et même les conséquences de viol qu'ont subi les femmes dans ce voyage sans espoir pour dire arriver en Europe et qu'elles ont été violées. En fin de compte, le même phénomène peut se reproduire, c'est-à-dire la modification des gènes d'une personne. Et la science a pu démontrer que cela existe, d'où le comportement de nous autres, de pas mal de gens dans ce monde. Donc la question qui est à se poser, et je pense que les psychologues, les anthropologues pourront en débattre et à trouver une solution, mais la génération future de ce monde, mais ce sont des gens sans conscience, puisque il y a un dominant et un dominé, et en fin de compte, le dominé, lui, en tant qu'être humain, est-ce qu'il a une âme encore? Donc, et dire que on parle de l'esclavage, c'est un phénomène inimaginable, d'où la destruction d'un individu faisant partie de cette humanité. Et aujourd'hui, on utilise une autre forme de violence qui est encore une déshumanisation de l'être humain par le viol. Donc, je pense qu'il y a des réflexions à faire, il y a des analyses à faire, mais on n'est pas vivre pour vivre.
L'héritage de la souffrance. On entend bien, effectivement, hein, les séquelles hein, que vous décrivez, mon cher Marcus, hein, des violences, notamment les séquelles de l'esclavage, vous le disiez, hein, sur les familles, notamment, mais aussi les séquelles des violences aujourd'hui. Merci, Marcus, hein, nous avoir alerté sur... ces questions-là, questions éminemment aussi presque, j'allais dire, philosophiques en tout cas, d'un niveau important, mais c'est important aussi d'avoir en tête ces choses-là. Et Marcus craignait, hein, voilà, d'avoir des citoyens sans conscience, mais voilà, après l'éducation permet aussi de conserver cette conscience. Merci beaucoup Marcus pour ce sujet. Revenons à l'actualité plus actuelle avec Abdel Wassi, je pense, dans l'ordre d'arrivée. Ah, il m'excuse Abdel, je crois qu'Abdel est arrivé avant. Il y a Souleymane juste après pour le Burundi. Abdel Wassi, Monsieur Ouattara, les déclarations de Monsieur Ouattara, qui n'a pas dit qu'il était candidat, hein, je le précise, il a dit « la Constitution m'autorise ». Bonjour Abdel.
Justement... Oui, bonjour, c'est Paris, merci. Et on le connaît bien, nos présidents africains. La Constitution m'autorise là, parce qu'il a modifié la Constitution pour que la Constitution l'autorise. Mais au lieu qu'ils agissent dans le sens d'apaiser les populations, de préparer la réelle, et se dire que chacun passe, les institutions restent, les hommes passent. Ils préfèrent mettre du flou pour mettre encore des situations ingérables. Parce qu'au lieu que le pays aille dans la paix, on se rappelle de faire des calculs, alors ça va partir, alors ça va arrêter. Donc, ça ne se pas dans le sens du développement. Je crois que si j'ai un conseil à donner à ce père, à la salle-là, il faut qu'il sorte de façon honorable de l'histoire. Il faut savoir quitter les choses avant que les choses les réquittent. L'unité est terrestre. On connaît ce président-là qui dit, oh, je n'ai pas fini, le livre que j'ai commencé, je vais terminer, alors on change. Si on a changé la constitution pour ôter la limite d'âge, c'est pour qu'il puisse se présenter. Mais franchement, je ne lui souhaite pas ça. Le pays, là, quand il a guerre, ils sont en train de faire une pacification aujourd'hui, là. Tout ce qu'il va faire contre le bon sens, ça va encore générer davantage. C'est sûr que ça profite à certaines personnes qui sont toujours dans le Beaugrillot, qui sont toujours dans le comme ça. Mais on ne peut pas continuer de maintenir un peuple dans un état, un éternel état de recommencement comme ça. La suite doit évoluer. On doit évoluer. Chacun qui fait et puis l'autre fait. Parce que la paix, c'est une grande chose.
Pour vous, la limitation de mandats ne doit plus être en débat, mon cher Abdel Wassi. De mandats, c'est de mandats, un point, c'est tout. Voilà.
Ça ne doit plus être un débat.
C'est très clair.
Ça ne doit plus être un débat.
Merci.
Ça ne doit plus être un débat.
Merci beaucoup, Abdel Wassi. On a bien compris hein, que vous ne compreniez pas ces propos de Alassane Ouattara qui, finalement, selon vous, attise plutôt qu'il n'apaise. Merci beaucoup, monsieur Abdel Wassi. Souleymane, bonjour. Excusez-nous.
Oui, bonjour madame Stéphanie.
Bonjour Souleymane. Oui, je savais que vous alliez appeler pour nous parler des déclarations de Pierre Nkurunziza, vous qui suivez de près cette situation au Burundi.
Oui, effectivement. Bon, je vous remercie de m'avoir accepté sur votre antenne, comme d'habitude. Je remercie toute l'équipe d'Africa numéro 1. Hier, vous n'êtes pas censé ignorer, le président de facto du Burundi, Pierre Nkurunziza, a fait une déclaration que certains ont réunie dans le monde entier. Mais pour nous, nous disons que c'est un non-événement. Voici un monsieur qui est venu au pouvoir après les accords d'Arusha en 2005. Aujourd'hui, nous sommes en 2018. Ce monsieur a fait deux mandats. Son deuxième mandat est terminé en 2015. En 2014, il nous sortait la même chose en nous disant qu'en 2015, il ne sera pas candidat. Nous avons vu, en avis 2015, dès l'instant il a commencé à avoir, n'est-ce pas, des suspicions de mandat de Pierre Nkurunziza, la Cour constitutionnelle et même l'Assemblée nationale a fait barrage à cette, n'est-ce pas, à cette aventure. Nous avons vu le lot des massacres, les assassinats ciblés, les disparitions forcées aujourd'hui des milliers de réfugiés. Ce monsieur aujourd'hui, Pierre Nkurunziza, il a acculé de l'intérieur comme à l'extérieur à cause de, n'est-ce pas, des sanctions de l'Union européenne, n'est-ce pas? Les robinets sont fermés, les vannes sont fermées, le régime est asphyxié. Pour pouvoir avoir un bouffet d'air, aujourd'hui, ce monsieur dit à la communauté nationale et internationale qu'il ne sera pas candidat en 2020. Nous disons ici à tous les Burundais de ne pas se laisser distraire à ce monsieur. Il a des comptes à rendre dans la Cour pénale internationale, il devra rendre compte, qu'il soit candidat ou pas, pour nous c'est un non-événement. Le combat continue pour le peuple burundais, nous le disons toujours, de tenir bon. Et je ne vais pas terminer ici sans dire merci à votre collègue, le très cher frère Francis Laloupeau, qui tous les jours, pardon.
Oui, mais allez-y, j'allais vous enlever le nom de votre bouche, mais oui, Francis Laloupeau qui chaque soir dans son émission rend hommage au peuple burundais.
Et voilà, qui rend hommage au peuple burundais. Merci beaucoup, M. Francis Laloupeau. Merci beaucoup à Mme Stéphanie. Et bon week-end.
Au revoir, merci madame. À vous, Souleymane. Et d'ailleurs, j'en profite effectivement pour apporter notre soutien à mon cher confrère Francis Laloupeau, qui effectivement pense régulièrement au peuple au burundais, non sans subir les foudres parfois du régime. On continue la libre antenne avec vous, Monsieur Diarra. Bonjour. Bonjour, Monsieur Diarra.
Bonjour, madame.
Bonjour, Monsieur Diarra.
Bonjour, Africa.
Vous êtes plusieurs, Monsieur Diarra, à intervenir sur l'antenne. Il va falloir que je fasse des petites astuces pour vous distinguer.
Oui.
Vous, c'est Diarra Mozon.
Oui, ma...
Si j'ai bien
non,
dit
moi, je ne suis pas Diarra Mozon. Bon, madame, d'abord, je tiens à vous dire que merci tout d'abord de nous avoir donné la parole, de pouvoir à nous exprimer.
Merci à vous. Merci à vous de la prendre, madame... la parole, monsieur Diarra. C'est à vous.
Nous intervenons aujourd'hui pour dire au fond, enfin, une autorisation des manifestations populaires, madame, au Mali, car l'interdiction des manifestations est une erreur politique. Les pouvoirs en place, liberté d'expression et d'opinion, est un acquis démocratique. Les pouvoirs qu'il a aujourd'hui, c'est un pouvoir des peuples qui est acquis hier par les peuples. Donc, face ou devant un sursaut populaire, aucune montagne ne résistera. Tous qui ont pris en otage nos pays depuis ces dernières années, je tiens à leur dire que personne, ni personne au monde, peut mettre sous tutelle l'intelligentsia de ces grands peuples. Des passages in hymne national, oh pour l'Afrique et pour toi, les Mali, notre combat sera liberté. Les tiers vivront de confiance, oui madame, nous sommes un peuple confiant en toi, mais qui n'est pas orgueilleux. À bon entendeur, salut.
Merci, monsieur Diarra. On a bien compris, vous fustigiez l'interdiction des manifestations au Mali. C'était notamment samedi dernier. Merci beaucoup, monsieur Diarra. Alors, du coup, je demande à Robert de patienter encore un peu, puisque Abdoulaye aussi n'a pas pu intervenir hier, je pense d'ailleurs, Abdoulaye, et voulait intervenir sur les manifestations au Mali. Bonjour, Abdoulaye.
Oui, bonjour.
Bonjour, Abdoulaye. C'était bonjour, vous hier qu'on n'a pas pu prendre, peut-être.
Voilà, bonjour.
Voilà, bah, bienvenue, Abdoulaye, bienvenue. Ouais.
Bonjour à toute l'équipe d'Africa Noir, à tous les auditeurs et à tous ceux qui nous écoutent. Je voulais juste dire, celle qui a été réprimée, qui a été illégalement réprimée, ça ne devait pas se passer comme ça. Parce que vu que les manifestations, c'est un droit, surtout confiscation de la radio, l'OFM, et puis celle qui concerne les élections, la transparence des élections, les bons déroulements, c'était sur ça. C'est cela. C'est là que voilà, les opposants sont sortis avec toute la couche sociale, société civile et associations, qui ont demandé qu'on puisse libérer la scène. Ben, c'est dommage, je trouve certaines élites politiques...
Du côté de la majorité, on n'est pas trop d'accord avec l'ORTM, on dit que l'ORTM annonce quand même les candidatures des uns des autres. Hein. Ils parlent un peu de l'opposition.
Non, certes, ils annoncent, mais c'est là, ils les laissent aller vers la population, comme le président l'a fait, le président a quitté Bamako pour Sankoba, ainsi de suite, à Chigasso, à Sibou, ils ont été là. Pour les autres aussi. Il faut faire la partialité, chacun doit avoir l'accès. Mmh. C'est pour le peuple, c'est pour la population malienne, c'est pas pour un régime ou un clan. On est d'accord?
Voilà, ça voudrait dire finalement l'ORTM doit faire jouer davantage son rôle de service public. Hein.
Oui, service public. Dommage. Je trouve que certaines élites, de certains membres de nos élites, qui n'est même pas de la majorité présente ni de l'opposition, qui disent que non, comme d'habitude, la télé a été toujours au service du régime, ils refusent de participer pour justifier que non, la télé a toujours été au service du régime. Ça veut dire qu'il y a une trahison, le peuple, c'est une trahison, moi je trouve que c'est une trahison envers le peuple, parce qu'une télévision nationale doit être au service du public, avec le public qui dit public, qui dit le peuple, on est d'accord? Donc tout le monde doit participer. Désormais, le changement, cela doit changer, tout doit changer au Mali. C'est un État qui vient d'une crise profonde. L'État est effondré, donc on est en train de construire un État qui n'existe pas. Donc dans ce cas, tout ce qui a permis que l'État puisse effondrer, tout ce qui a permis que non, le système puisse prospérer, doit disparaître. Pour qu'on puisse avoir un État prospère, un État...
C'est très clair.
Justice, un État là où justice est égalitaire pour tous. L'injustice, qu'on finit avec ça.
Et alors, une question, Abdoulaye, puisque vous appelez au changement au Mali, est-ce que cette élection présidentielle sera l'occasion du changement, selon vous?
Tout à fait.
Bon,
désormais,
c'est clair.
Non, madame, demande-moi pourquoi.
Non, mais on en reparlera, Abdoulaye. Et d'autres auditeurs, et le temps passe vite, mais allez-y,
nous avons compris,
une phrase.
C'est-à-dire, nous avons compris que notre élite même n'est pas prête pour le changement réel des modes de gestion. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Si réellement l'élite était consciente que non, que la République est en danger. Ils devaient se réunir, ceux qui n'ont jamais gouverné le pays, qui cherchent le pouvoir aujourd'hui, devaient se trouver au sein d'une coalition pour gagner ce candidat contre l'État.
C'est très clair.
Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont traîné dans le bout. Qu'est-ce qui va se passer? Nous, la jeunesse consciente, on regarde par rapport aux élites, ceux qui peuvent, le parti qui a plus de poids face à l'État, on voit les régions pour faire changer. Désormais, c'est quoi? Celui qui arrive au pouvoir, qui a 5 ans, qui travaille, si tu n'arrives pas à travailler, on va te faire partie, on amène quelqu'un d'autre. C'est tout, un point barre.
Eh bien, on aura l'occasion d'en reparler, Abdoulaye, bien sûr, hein, de cette élection présidentielle au Mali, hein, que vous pourrez suivre sur Africa numéro 1. On rappelle, le premier tour, c'est le 29 juillet prochain. Merci beaucoup, Abdoulaye, de votre participation. Il y a un auditeur qui n'a jamais appelé, là, qui est patient au standard. Ne quittez pas, hein. On va essayer de vous prendre. Il nous reste 6 minutes. Robert, bonjour.
Bonjour madame.
Bonjour monsieur Robert. Vous vouliez revenir sur l'Italie, hein, je crois, qui veut expulser les migrants.
Oui, c'est que je ne suis pas d'accord avec mes chefs frères africains. Et lorsqu'ils parlent que les frères africains doivent être rapatriés en Afrique, je me pose la question, lorsqu'ils parlent ça, est-ce qu'ils réfléchissent en disant que lorsque, vous vous souvenez bien, lorsque nous avons vu des vagues de Syriens qui sont arrivés partout en Europe, ils sont mis à dispatcher, à diviser les Syriens partout. Je veux vous dire aussi à mes chefs frères africains qu'ils sachent que la dictature africaine, c'est sous forme de maltraitance, c'est sous forme de torture, que les jeunes diplômés africains qui sortent de tous les côtés ne parviennent pas à trouver de l'emploi. Donc ça, c'est sous forme de maltraitance, de la souffrance qui pousse nos jeunes à sortir pour venir émigrer. Moi, je dis ceci, il est très simple. Il faut que les Européens prennent leurs responsabilités. Ça veut dire que quoi? Eux supportent tous les dictateurs africains. Il faut qu'on se dise la vérité. Lorsqu'ils supportent les dictateurs africains...
Est-ce qu'on peut moduler le terme de dictateur?
Oui. Bon, peut-être le mot un peu fort. Bon, je dis ceci. Lorsque mes chers frères africains, ils arrivent en masse, ils doivent faire la même chose comme ils ont fait sur les Syriens. Ça veut dire que quoi? Ils doivent diviser cet Africain-là dans tous les pays africains, dans tous les pays européens. Et essayer d'étudier les cas par cas. Bon, je ne dis pas qu'ils doivent accepter tout le monde. Non. Ils doivent les dispatcher dans tous les pays européens, comme ils ont fait aux Syriens. Je me pose la question... C'est une question. La question se pose ainsi, ou bien c'est une visibilité qui crée ce problème, ou bien je le comprends.
Parce que la ligne se dégrade, Robert, malheureusement. Je pense que vous êtes en voiture avec un kit main libre, hein, mais on a bien entendu que vous appelez à l'Europe à prendre ses responsabilités, hein, finalement, et arrêter peut-être de faire le tri entre migrants. Entre guillemets économiques et migrants et demandeurs d'asile. C'est ce que semble faire en tout cas l'Europe actuellement. Demba, bonjour, bienvenue dans le journal des auditeurs.
Bonjour madame Ackman.
Bonjour monsieur Demba. Vous vouliez revenir sur le Mali, on en parlait un peu.
Ouais, sur le Mali, voilà, comme j'ai d'habitude de dire, comme quoi il n'y a pas d'opposition au Mali. Voilà, et avant que l'élection, bon, depuis 5 ans, on ne les entend jamais pour défendre la cause malienne. Bon, comme il y a élection qui s'approche, chacun est en train de se samailler pour son intérêt égoïste, pour son intérêt personnel. Voilà, et ils n'arrêtent pas de critiquer le gouvernement. Comme ils disent que, bon, le prédécesseur qui a dit que l'ORTM au service du gouvernement. Mmh. Mais Ibeka, il est au travail de tous les Maliens actuellement. Mmh. Bon, l'opposition, ils font quoi? Ils ne font pas de déplacements pour aller faire... C'est pas leur rôle d'aller inaugurer des trucs ou d'aller avancer...
Vous dites que c'est normal que l'ORTM rende compte des activités du président au service des Maliens.
Mmh. Exactement. Mais l'opposition, regarde, la campagne n'est pas commencée encore. Si la campagne commence, l'ORTM est là pour métatiser tous les... que ce soit l'opposition ou majorité. Bon, comme vous venez de dire tout à l'heure comme quoi, l'ORTM a dit qu'ils ne sont pas d'accord. Parce que l'ORTM, tous les jours, il présente les candidatures de tels opposants, les meetings de tels opposants. Mais il faut attendre que la campagne commence. La campagne n'est pas démarrée encore. Mmh. Bon, comme j'ai d'habitude de dire aussi, parce que regarde, là, tout le monde est en train de chamailler sur Ibeka, il n'a rien fait. Ibeka, il est venu au pays. Quand il est venu, le pays était à genoux. Bon, le boulot qu'il a fait, on ne le voit pas parce que tout le monde est concentré sur le nord. Au niveau sécurité, il y a plein de gens qui parlent sur le nord, la sécurité du pays. Il y a qui? Il y a l'aménagement. Il y a 11 000 soldats de l'aménagement qui sont là. Il y a 2 000 ou 3 000 soldats français qui sont là. Pourquoi il n'y a pas de sécurité encore?
Vous dites que ce n'est pas la faute d'Ibeka, finalement. Est-ce que je retiens aussi, Demba, et on aura l'occasion hein, peut-être d'en reparler, ce que vous dites aussi, c'est que finalement, l'opposition, ces dernières années, on ne l'a pas attendu, on l'a entendu plutôt. C'est quand on entend, c'est finalement à l'approche d'un scrutin que l'opposition se réveille. Merci beaucoup, Demba, merci beaucoup de votre appel. Il nous reste 2 minutes juste à peine de prendre d'un auditeur. Je regarde du côté du standard, il y a David, il y a Abdoulaye, mais David est intervenu qu'une fois, alors qu'Abdoulaye 63 fois. Alors je vais donner la parole à David, si vous le voulez bien. David, bonjour.
Oui, bonjour. Stéphanie, en fait, à la base, je voulais vraiment pas intervenir, mais j'avoue que le sujet sur l'Italie m'a vraiment énervé. Mm. J'étais déçu par l'intervention du premier intervenant, parce que quand il parle effectivement du flux d'immigrés, il y a certes une communauté d'afro-subsahariens qui est importante, mais en fin de compte, elle est insignifiante par rapport au nombre. Je crois qu'on fait un faux procès aux Africains, parce que quand on regarde, j'invite tous les auditeurs à consulter un peu les statistiques données par les autorités françaises. Mmh. Je ne minimise pas le problème. Moi, ça me désole de voir mes compatriotes mourir au fond de la mer. Je pense aussi qu'il y a une partie d'Africains qui, une fois arrivés à l'autre rive, ont tendance à regarder le problème avec les yeux du pays d'accueil.
Les occidentaux, vous dites, ils oublient d'où ils viennent. Ben vous savez, il y a une phrase qui dit souvent, quand on rentre quelque part, on ferme la porte derrière soi.
Ben voilà, c'est souvent le dernier qui rentre qui ferme la porte, c'est bien ça. Et surtout, vu tous les problèmes que nous avons, parce que quand on regarde les chiffres, aucun dans l'histoire européenne, à part durant la période d'esclavage, je salue au passage Marcus, j'avoue que, il apporte souvent des éclairages sur beaucoup de sujets. Bon, bref, donc pour dire simplement à cette personne qui n'a qu'à regarder les chiffres sur l'immigration, parce qu'il y a eu 1 million de Syriens accueillis en Allemagne, ce qui fait le double de la totalité de la population africaine dans ce pays. Donc on n'a pas du tout cette invasion comme on essaie de la présenter. Il y a des chiffres, c'est un fait.
D'ailleurs, la France en accueille beaucoup moins, David. Phrase de conclusion, parce qu'il nous reste 40 secondes, juste le temps de peut-être...
Simplement pour dire que les Africains, je pense quand même que le problème est ailleurs, c'est d'abord sur notre continent. Moi, je pense qu'une ouverture des frontières, si on fait des États avant un État, je veux dire...
Oui, David, ça ira mieux. Merci beaucoup, on va rester comme ça. Merci beaucoup, David, de votre appel. Merci à tous, surtout... de votre participation à cette émission. Elle sera rediffusée ce soir à 19h20. On se donne rendez-vous lundi pour une nouvelle édition du Journal des Auditeurs. Je vous propose peut-être de parler lundi du miracle éthiopien. Voilà, on parle beaucoup de l'Éthiopie en ce moment, il y a beaucoup de réformes. N'hésitez pas à vous inscrire à jda.africain.com. En attendant, bon week-end à vous, à lundi.